Bonjour à tous, je sais, la vie est dure et injuste, la vie est trop courte, bref, nous sommes en septembre, mais il existe au moins une bonne nouvelle en ce mois maudit, puisque votre podcast préféré sur l'actualité du cinéma, vu par les scénaristes, est de retour. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 32. Et comme c'est la rentrée, nous avons décidé de changer un peu la formule, on a rangé nos affaires et on est passé en mode professionnel, puisque nous allons maintenant parler des films par catégorie, à savoir les personnages, puisque les personnages, c'est du scénario, l'intrigue générale, et enfin le thème ou le message du film. Nos trois petits cobayes pour cette nouvelle formule sont donc Once Upon a Time in Hollywood, Deux Mois et Late Night. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe qui porte son cartable de rentrée. J'ai nommé Cédric, Armand, Marie et Fiona. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Once Upon a Time in Hollywood, écrit par l'inévitable Quentin Tarantino, et c'est Armand qui nous le pitch.
Alors, nous sommes en 1969 à Hollywood. Rick Dalton, un acteur has-been, et son ami Cliff Booth, qui était également sa doublure cascade, qui est blacklisté un peu partout. Ces deux-là tentent de relancer leur carrière dans une industrie cinématographique nouvelle, en pleine apogée du mouvement hippie. Et pendant ce temps, l'actrice Sharon Tate se promène.
Très bien, alors on commence par les personnages. Cédric.
Bon, alors s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Tarantino, c'est quand même qu'il a l'amour de ses personnages, en tout cas de ses personnages masculins, parce que les personnages féminins sont un peu absents de ce film.
Énormément absents, oui.
Voilà. Et que ce n'est pas ce qui est le plus raté dans le film. surtout dans le sens où les personnages sont écrits pour servir un peu la soupe aux comédiens. Et ça donne quand même de belles performances, en tout cas de belles scènes, même si ça ne fait pas un film.
C'est vrai. Fiona ?
Moi, je trouve effectivement que les personnages, c'est le point fort de ce film. J'ai trouvé Rick Dalton assez attachant, notamment dans la scène où il hurle de ne pas savoir retenir ses répliques et qu'il s'en veut d'avoir bu la veille. Je trouve qu'on a quand même un personnage qu'on suit, qui est construit et auquel on s'attache. Pareil pour l'acteur, pour Cliff Booth, donc interprété par Brad Pitt, qui est pour le coup là le personnage un peu tarantinesque par excellence, le mec cool qui se bat, qui dresse bien son chien, mais qui en même
temps torse nu en changeant des antennes.
Ça c'était un bon
le
passage
moment
du film. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le personnage féminin. Alors oui, forcément, on la voit beaucoup moins et elle n'a pas beaucoup de personnalité, cette Sharon Tate, mais je pense que par rapport à ce qu'il veut dire, on en reviendra plus tard, elle incarne un petit peu, enfin je la trouvais touchante quand la seule scène qui la met en valeur, c'est-à-dire celle où elle va au cinéma voir son propre film, elle n'est pas du tout offusquée qu'on ne la reconnaisse pas, elle joue le jeu de la photographie, elle est plutôt naïve et mignonne et on dirait qu'elle a l'amour vraiment du cinéma. Et quand elle va voir son propre film, ben elle est touchée de voir son film, de voir les gens qui rigolent, qui réagissent positivement. Donc je la trouve assez touchante dans cette naïveté. Voilà.
Bien, Marie.
En fait, je trouve que Sharon Tate représente tout à fait... En fait, elle symbolise l'époque dans laquelle le film est ancré. Puisque quand on s'intéresse un peu à cette histoire de Charles Manson et puis à la vague hippie aux États-Unis, on voit bien que ce meurtre a vraiment sonné le glas de cette époque et des hippies. Et que, en fait, à partir de ce moment-là, ça a quand même traumatisé tout un pays et les hippies ont été un petit peu blacklistés. Ouais. Et bon, à raison, certainement. Peut-être qu'on a jeté un peu bébé avec l'eau du bain. Quoi qu'il en soit, elle représente effectivement cette insouciance, cet âge d'or d'Hollywood. Enfin voilà, elle est magnifique, elle est vraiment mise en valeur dans tous les plans. Elle est, comme tu dis, naïve et elle représente cette époque finalement de cinéma où les actrices, je sais pas, avaient l'air de vivre dans un pays enchanté quoi. Clairement.
D'accord, mais attends, sur le plan scénariste pur, tu l'enlèves du film, ça change rien.
Oui, mais là on parle des personnages. Ouais. Là on parle pas d'intrigue, on parle des personnages. Ce personnage-là, il est construit comme ça. Bon,
il représente quelque chose. Mais après, je suis complètement d'accord qu'il ne s'intrigue, il ne s'insère pas, il ne s'inscrit pas dans une histoire. Ça c'est un autre problème. On pourra en revenir après. D'accord.
Après, il y a aussi un personnage qui est sympa, juste sur le personnage féminin. On la voit pas non plus beaucoup, mais c'est la petite actrice qui joue avec Rick Dalton,
qui est plus intéressante que Sharon Tate.
Exactement, qui est quand même vachement chouette. Elle est très rigoureuse, elle apprend très bien son texte. Elle préfère qu'on l'appelle par le nom de son personnage sur le plateau pour ne pas break character. et elle est pas petite peste pour autant parce qu'elle sait récompenser. Enfin, et elle aussi, elle transmet. J'ai l'impression que par les femmes, on transmet beaucoup l'amour du cinéma et le faire de bien faire son travail.
Très bien. Ouais. Armand, un mot sur les personnages ?
Je suis tout à fait d'accord. Ce personnage est beaucoup plus intéressant, selon moi. C'est une petite bosseuse. Après, Sharon Tate, c'est surtout qu'en fait, elle est sous-exploitée par rapport à la place qu'elle prend dans le film en termes de temps. On la voit, en fait, on la voit beaucoup, et en la voyant beaucoup, j'aurais préféré la voir interagir beaucoup plus avec les autres personnages, tout simplement. Parce que les personnages se construisent entre eux, dans un réseau. Et là, elle est toute seule, en fait.
Bah, elle n'a pas une seule réplique qu'elle échange avec Brad Pitt. Hein. Ça, c'est...
Mais peut-être que là, du coup, on peut peut-être bifurquer sur la partie...
Oui.
Alors, juste avant, je veux dire, moi, sur le personnage de Rick Dalton, j'ai eu des problèmes d'empathie, parce que le côté l'acteur qui se demande s'il va réussir, moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est à la fin. Le personnage, il a quand même subi une attaque où il a failli mourir, lui et sa femme. Et au lieu d'aller réconforter sa femme qui est sûrement traumatisée, il préfère aller.
Qu'elle dormait.
Oui, il préfère aller prendre l'apéro.
Oui, pris un somnifère.
Il préfère prendre l'apéro chez ses non, amis plutôt que d'aller s'occuper de sa femme. En termes d'empathie, c'est quand même moyen.
Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est parce que vraiment, le personnage de Rick Dalton, c'est la seule chose quasiment qui m'a fait aimer ce film. J'ai trouvé qu'il était extrêmement bien construit. Tu vois bien qu'il a eu une carrière qui a pu être très prometteuse et que là, ben, il est dépassé par la nouvelle génération. Il est dépassé par la manière dont il comprend rien au hippie. Enfin, il est à la télé presque, enfin au cinéma. Il a l'air d'être, il est relégué au rôle de méchant. Il le dit, putain, j'ai eu 15 ans de carrière et maintenant tout est foutu, c'est mort. Et on se rend compte que il est bouffi par l'alcool, par les médicaments. Il rate des scènes, enfin c'est grotesque. Et après, il fait des scènes sublimes. Et là, je trouve que Leonardo DiCaprio, c'est tellement un bon choix. Enfin, c'est merveilleux comment il travaille. Et à la fin, il réussit. Il se sort de cette attaque des hippies en ressortant un accessoire d'un film qu'il a fait connaître au lance-flammes. En fait, il redevient un héros, il redevient son propre héros, et faisant cela, il passe à la postérité. Enfin, moi, on pourra y revenir, c'est ce que j'ai compris du message du film. Mais en tout cas, j'ai trouvé que lui, sa trajectoire émotionnelle était quand même plutôt bien foutue, et que c'était le seul avec qui on était... En empathie, qu'on comprenait finalement. Moi, c'est le seul en tout cas que j'ai compris.
D'accord, alors on va passer maintenant à, je trouve, le point faible de l'intrigue. Enfin, du film. L'intrigue.
L'intrigue. Le point faible de l'intrigue, c'est l'intrigue.
Voilà. Donc, Armand, veux-tu commencer par nous parler de cette intrigue ?
Donc, le thème. Le thème. pardon. Il y a une succession d'événements, une succession de scènes, et le climax n'est pas un climax, c'est une grande scène construite à partir de personnages qu'on voit apparaître comme ça tout d'un coup, même si on les a un peu vus avant. Je suis désolé, en fait, l'intrigue, pour moi, ça ne peut pas vraiment s'appeler une intrigue, tu as l'impression plus d'une chronique que d'une réelle intrigue. Pour moi, c'était plus un film chronique.
Très bien, Cédric.
J'adore le symbole dont tu viens de parler, effectivement, le comeback, c'est hyper intéressant, mais ça aurait été bien que ce soit servi par des actions concrètes, j'aurais préféré.
Okay, Cédric.
Je suis d'accord sur le côté chronique, effectivement, comme c'est un film avec une galerie de personnages, comme Tarantino aime bien faire, on a ce côté choral, chronique. Après, quand même, on a une espèce de crescendo qui n'est pas très marqué, mais qui va vers cette nuit dramatique, puisque bon, je pense que tous les gens qui vont voir le film sont un peu au courant de ce qui s'est passé. Et on sent quand même qu'il pose les jalons de ça pour mieux twister.
Comme il avait fait dans Inglourious Basterds.
Mais en tout cas, peut-être que l'intrigue, elle est construite uniquement sur tous ces points de repère qui vont vers cette fameuse nuit.
Tragique.
Tragique,
ouais. Très bien. Oui, Fiona ?
Moi, j'ai effectivement l'impression qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Donc, tout à fait, je vous rejoins tous les deux sur le côté chronique. Après, j'ai entendu sur les réseaux dire qu'il n'y avait pas de scénario. Je pense que ce n'est pas vrai. Il y a du scénario, il y a des implants. Mais c'est vrai que les scènes qui marchent le mieux sont les scènes où il y a un enjeu. Les scènes où il y a un enjeu, et elles sont rares. Je parle notamment de la scène où Cliff Booth va chez les hippies et qu'on se demande ce qu'ils ont fait à George.
C'est plus un suspense qu'un enjeu.
Oui, c'est plus un. Oui, mais bon, on se dit, est-ce qu'il va se faire buter quand même ?
Oui.
Il y a quand même un enjeu par rapport à lui.
Il y a un enjeu d'arriver à sortir de là sans vous passer.
Exactement, sans vous passer.
Et ouais, il pourrait se barrer beaucoup plus vite et il reste.
Oui, mais c'est le moment où je me suis réveillée dans le film.
Genre, si c'était fait tuer, j'aurais dit non, bien fait pour toi.
Très bien.
En réalité, je trouve que cette chronique marche bien parce que c'est quand même très joli, mais bon, c'est pas du scénario, pour le coup, on en parle pas. Mm-hmm. Mais je pense que, alors moi, je connaissais pas l'histoire de Sharon Tate, je l'ai lue après, du coup. Et j'ai mieux compris de me dire, ah oui, effectivement, j'aurais beaucoup plus appréciée si je la connaissais avant. Mais j'ai un peu l'impression que tout le film est un revenge porn sur on va buter les gens qui ont buté Sharon Tate que moi, Quentin Tarantino, j'adorais et dont j'ai la certitude qu'elle serait devenue une grande actrice. Donc il veut la sauver, quoi. Et c'est d'ailleurs pour il fait plein de clins d'œil à ce qui lui est arrivé, puisque j'ai lu que le gardien était dehors à écouter de la musique, et c'est exactement ce que fait le personnage de DiCaprio. Il est dans sa piscine en train d'écouter de la musique à fond et il se rend compte de rien. Et après, bon, bah voilà, c'est la violence de Tarantino habituelle.
Qu'on
mais,
attendait quand même.
Tout va vers ce moment-là, mais est-ce que c'est une histoire ? Non, c'est une scène de revenge porn, quoi.
C'est plus une suite de petits courts-métrages et il y en a qui sont plus ou moins réussis
exactement.
Que les autres.
Après, il y a toujours ces exercices de style où. Justement, il filme des séquences. Quand on voit la carrière de Rick Dalton, il utilise de différents types de mise en scène, de photos. Enfin, après, c'est tout le côté geek du cinéma de Tarantino,
ça
son côté maniéré.
Message,
quoi.
C'est
ah,
que
alors
ce
passe,
film...
passons au message maintenant, non, Marie.
Si vous voulez, mais pour te répondre, Cédric, moi je trouve que ce film, c'est une suite de messages, et, enfin, de, pas de messages, de clins d'œil, de références, d'hommages au cinéma, des westerns, à l'âge d'or hollywoodien, enfin, tout ça. Et en fait, je trouve ça intéressant, mais pour moi, ça ne peut pas construire un film. Et c'est vrai qu'un film hommage, il doit pouvoir se regarder pour lui-même. Et c'est pareil, comme tu dis, Fiona, moi, je suis allée voir ce film avec quelqu'un qui ne connaissait pas Sharon Tate non plus. Bon, bah, franchement, il n'a pas compris de quoi le film parlait. Et le problème, c'est que moi non plus. La vérité, c'est que moi non plus, alors que je connaissais très bien cette histoire. Et je trouve que c'est de là que le film me semble un peu raté. C'est-à-dire qu'il pourrait, devrait pouvoir se regarder tout à fait seul. Et après, quand on a la couche d'informations supplémentaires, on se dit oh, ah ouais, trop bien. Voilà. Un peu oui, comme le Da Vinci Code. Pardon, mais c'est un peu ça.
Non, c'est un peu comme les films qu'on avait fait sur la royauté anglaise. On regardait des scènes. Je crois qu'il y a deux films qu'on avait fait oui. La saison dernière. On pouvait les regarder sans connaître l'histoire de l'Angleterre, ah, forcément. Oui.
Et après,
pas
on
du
passait
film.
Tous 30 minutes sur Wikipédia.
Là l'histoire.
Nous avait, ça nous avait passionnés.
Exactement. Là, l'histoire avec un grand H, quasiment une prévalue qu'on était obligé d'avoir pour apprécier le film. Oui. Si tu connais pas la vraie histoire. Ça enlève énormément.
Mais je suis pas. Enfin, là où c'est vraiment dommage, c'est que Sharon Tate, justement, le fait qu'elle soit totalement déconnectée, périphérique à l'intrigue principale, ça nous donne pas non plus les clés pour comprendre le contexte. C'est-à-dire que si il avait dit bon, ok, je fais un film sur Sharon Tate, sur cette histoire, j'essaye de retracer ce que ça a changé dans l'histoire des États-Unis, nanana. Enfin, on y serait allé en toute connaissance de cause. Là. C'est rattaché, tu sais pas tellement comment l'intrigue principale, tu sais même
mais
pas
par le
c'est...
voisinage.
Ouais, c'est voilà, c'est, du coup, j'ai l'impression qu'on
c'est nos chers voisins Tarantino
de ce qu'il a voulu nous raconter.
Très bien, un dernier mot de qui?
Moi, je pense qu'il voulait aussi raconter l'absurdité de la famille Manson, mais pareil, bah, moi je suis complètement étrangère à ce pan de l'histoire, donc je connaissais pas, enfin, j'avais pas tilté que c'était la famille Manson et que c'était que le Charlie en question était Charles Manson. Non, mais vraiment, moi j'y allais, oui, c'était hippie, bon, il était hippie chelou, quoi, mais c'était hippie quand même. Et donc je suis passée à côté. Après, effectivement, moi je trouve que, après l'avoir lu, je fais ah ouais, d'accord, mais je pense que ce film se voulait exclu en fait. Il est fait pour les cinéphiles.
Et peut-être pour les Américains.
Et pour les Américains et pour les cinéphiles uniquement, j'ai l'impression.
Alors, c'est bourré de clins d'œil. Il y a plein de c'est personnages, enfin, il y a plein de caméos de justement d'acteurs, de personnages de l'époque qu'on est censé plus ou moins reconnaître. Effectivement, de toute façon, Tarantino a toujours fait ça. Il étale sa cinéphilie dans tout ce qu'il fait. Et c'est une forme d'amour du cinéma. Moi, je trouve ça un peu. Un peu maniéré, un peu...
Ouais, un peu private, quoi.
Ouais,
c'est un club privé, là.
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que le message de ce film, c'est... Et il y a un ami qui a un chien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ?
Dressez bien votre chien.
Il y a la tirade sur la violence juste avant le massacre. C'est peut-être la seule piste qu'on peut avoir sur le propos du film.
Pour le coup, je pense qu'il veut dire là-dessus que c'est idiot de dire « Ouais, c'est les films américains qui nous donnent goût à la violence ». Là, il dit clairement, ben non, c'est pas du tout ça. C'était violent, t'es violent.
Surtout qu'il, lui, est régulièrement attaqué pour la violence de ses films. Enfin, quasiment à chaque film.
Le mot de la fin, Marie ?
Ben, justement, par rapport au message, parce que ce film m'a tellement fait poser de questions, c'est que j'ai le sentiment, par rapport à la trajectoire émotionnelle de Rick Dalton, donc Leonardo DiCaprio, c'est que s'il t'arrive rien dans ta vie, si t'as pas un événement dramatique pour booster ta carrière, on t'oublie. Et finalement, est-ce que le message, c'est pas si Sharon Tate n'avait pas été assassinée horriblement, on se souviendrait d'elle. Parce que lui, il est sur le déclin, il se fait attaquer, c'est horrible dans sa maison, il se sauve in extremis avec son lance-flamme, et du coup, paf ! La scène d'après, d'ailleurs, c'est bien fichu à ce moment-là, il accède à la maison du plus grand des réalisateurs. Du coup, j'ai le sentiment... Enfin, est-ce que c'est un message positif par rapport à Sharon Tate,
ou j'y arrive pas non plus.
L'inverse.
Là, il était bien à une pool party away de la célébrité.
Ouais, ça c'était vraiment bien fait. Ça c'était vraiment bien fait.
Très bien. Allez, tour final sur ce film, Cédric.
Bah moi je le recommande si vous aimez Tarantino et sa manière de filmer et ses longs plans séquences et pour la galerie de personnages, voilà.
Et parce qu'on voit beaucoup de pieds féminins aussi. Hein. Il a pas arrêté avec ça, Tarantino. Armand.
C'est extraordinairement bien filmé et dirigé, mais je me suis alternativement éclaté et profondément ennuyé, et plus souvent ennuyé qu'éclaté, malheureusement.
D'accord, Marie ?
J'aime beaucoup certains films de Tarantino, des plus vieux, mais c'est vrai que celui-ci m'a laissé de marbre. Et non, en plus, il est très long, 2h40, merci quoi.
Et Fiona ?
Oui, je me suis ennuyée aussi la majorité du temps, mais comme Marmont, j'ai eu des moments où je me suis vraiment éclatée sur certaines scènes, donc presque peut-être à voir par petits bouts.
Ouais, moi, c'est la première fois que Tarantino me déçoit vraiment. Je suis quelqu'un, j'adore, enfin, j'apprécie énormément sa filmographie, et là, vraiment, je me suis ennuyée comme un rat pendant le film. Et quelqu'un qui sait aussi bien écrire les personnages, Charles Manson a une scène.
Je pense que c'est volontaire parce que.
Bah oui, mais je voulais en voir plus. Mais heureusement, c'est le même acteur qui joue dans Mindhunter saison 2. On enchaîne avec Deux mois, écrit par Santiago Amigorena et évidemment Cédric Clapiche. Je vais y arriver. Cédric Clapiche, c'est comme Sharon Tate. Tu vois, et c'est Fiona qui nous le pitch.
Alors, Deux mois, c'est l'histoire de Mélanie et Rémi, deux trentenaires qui ne se connaissent pas, mais qui sont voisins. Ils ne se rencontrent jamais, mais ils souffrent un peu du même mot. Ils sont tous les deux déprimés, voire en dépression. Mélanie parce qu'elle ne se remet pas de sa rupture avec son ancien compagnon qui date d'il y a un an et Rémi parce qu'il travaillait dans une usine et l'usine a fermé, tous ses collègues ont été virés, ils sont donc au chômage et lui comme il était plus jeune il se retrouve à un autre poste à la communication en gros mais il le vit mal voilà, d'avoir été un des rescapés et on va tout simplement voir comment ils vont essayer de voir un psychologue chacun pour essayer d'aller mieux tout simplement.
Alors, c'est comme le film de Tarantino, c'est une histoire de voisins, hein, comme d'habitude. Sauf que là, il y a moins de violence. Donc, il y a deux personnages vraiment principaux, il y a Rémi et Mélanie. Mais autant, j'ai réussi à avoir de l'empathie pour Mélanie, parce qu'elle, en termes de scénario, elle avait un objectif concret, c'était réussir sa présentation qu'elle doit faire à son travail, c'est extrêmement important pour elle. Alors que Rémi, lui, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était déprimé. Alors, peut-être que la déprime est un sujet qui m'échappe, parce que je suis quelqu'un de naturellement heureux, donc peut-être que ça ne me parlait pas. Mais j'avais envie de lui dire, mais mec, tout va bien dans ta vie, quoi. Je veux dire, t'as un boulot qui va bien, t'as un petit chaton que t'as trouvé, t'arrives à draguer des meufs. Ah, ça va, quoi. Je veux dire, comme on dit sur Internet, don't be a pussy.
Ouais, bah je pense qu'effectivement, tu ne sais pas ce que c'est que la déprime. Je parle même pas de dépression, mais de déprime, c'est que justement.
Un épisode de déprime, comme il dit.
Ouais, un épisode dépressif, je sais plus.
Un épisode dépressif.
Bah, justement, lui-même ne sait pas pourquoi il est comme ça. Et c'est une des formes de dépression et de déprime, c'est qu'il comprend pas qu'est-ce qui va pas. Et justement, c'est ça qui est, je trouve, touchant avec lui. C'est que. Donc, on est dans les spoilers, hein. Il va balancer vers la fin du film à son psy, alors que jusque-là il disait des banalités, voire rien du tout, que il dit ouais ça m'a rappelé Clémentine ou je sais plus comment ça s'appelle. Il dit ah, c'est qui Clémentine? Ah, c'est ma petite sœur, elle est morte quand elle avait 7 ans. Ah, ok, peut-être on en parle. Ça fait 6 mois qu'on se voit et que je suis ton psy. Et donc il a cet énorme trauma d'enfance qui n'est pas réglé, où ses parents n'en parlent pas. Il n'a même pas le droit d'aller sur la tombe de sa sœur parce que ses parents changent le chemin, enfin ne veulent pas y aller. Donc c'est une petite fille qui est oubliée pour faire son deuil et du coup ça ressort d'un coup et le psy dit putain c'est fou tout ce qu'on peut dire comme connerie, comme banalité avant d'arriver au point où ça fait mal quoi. Et lui-même ne se rendait pas compte que c'était peut-être ça qui le bloquait, qui culpabilisait d'être vivant par rapport à sa sœur et qui culpabilisait par rapport à ses collègues d'avoir encore un travail alors qu'eux sont au chômage.
Mais ça moi j'ai trouvé que c'était un énorme déus. Énorme, parce que justement il est en train de parler pendant 6 mois et d'un seul coup, ah en fait, oui j'ai eu un traumatisme, je me suis fait violer dans mon enfance,
non,
je vous en ai pas parlé ?
Je suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est plutôt bien amené parce que.
Ah, pas du tout.
Bah non, parce qu'en fait il voit la veille un incendie et il y a une mère en pleurs avec sa fille et on voit le père qui part sous la civière, ils savent pas si le père va s'en sortir, il est témoin de cet incendie dans la rue, enfin voilà, il regarde avec d'autres passants et il dit que ça l'a vachement remué quoi, parce que quand tu vois ça etc, il dit je sais pas, en plus là ça m'a rappelé, et il dit la petite elle m'a rappelé ma sœur en gros qui est morte, mais ça, on n'a pas vu 6 mois de conversation avec son psy, donc je trouve que c'est un moment où il peut le dire. Et d'ailleurs je trouve que le dialogue est plutôt bien fait. Il dit pas ça m'a rappelé ma sœur morte. Il dit ça m'a rappelé Clémentine et ouais c'était vraiment horrible. Et il dit, c'est qui Clémentine? Enfin, il dit ah c'est ma sœur, ouais elle est morte quand j'ai 7 ans. Enfin, il vient pas pour parler d'elle. Donc non, je trouve que c'est plutôt bien amené. Tu n'as pas de cœur.
Bah non, faut croire. Personnellement, ce film m'a pas touché, mais enfin, il aurait fait comment s'il n'avait pas parlé d'elle?
Ah bah
pour
aurait,
s'en sortir.
Bah justement, ça aurait pris 6 mois de plus, ça aurait pris 1 an. Et c'est
non,
jusqu'à,
rien,
jusqu'à en parler. Il ne,
non,
il ne sait pas.
Alors, je trouve que c'est une énorme facilité de scénario. Ouais, bon, mais, ça, pour son personnage. Mais là, parlons de la fille. Elle, pareil, elle arrive finalement à finir son. Comme tu dis, elle n'arrive pas à dormir. Donc, du coup, on dit à sa présentation qu'arrive. Qu'est-ce qu'elle fait la veille de sa présentation? Elle prend un plan cul Tinder. Elle s'envoie en l'air, elle se bourre la gueule, elle tombe malade. Conséquence, bah aucune. Elle arrive à très bien faire sa présentation et tout va bien. Donc où est le conflit dans ce personnage?
Ah mais moi je pense que le conflit il est très interne. Alors là on est passé un peu du côté intrigue. Plutôt,
on est un peu passé du côté intrigue.
Parce que de toute manière les deux sont mêlés pour le coup dans ce film.
Parce que c'est vraiment un film de
personnage. Parce que c'est un film chronique aussi. En fait on les suit. Il y a une avancée, il y a un crescendo quand même justement dans leur façon d'aller mieux, etc. Mais c'est un film un peu chronique. On suit les deux et dans leur parcours pour aller mieux. Et c'est vrai qu'elle fait des mauvais choix et on s'en fiche un peu des conséquences justement de cette présentation parce que je pense que tu te trompes d'objectif toi. Quand tu me parles d'objectif concret qui dit que sa présentation et que, alors que Rémi n'en a pas d'objectif concret, mais en fait leur objectif concret c'est d'aller mieux. C'est un prétexte la présentation. Mm-hmm. C'est vraiment des conflits internes.
Est-ce que t'as pas eu l'impression quand même que c'était Clapiche découvre les réseaux sociaux 15 ans après tout le monde?
Il y a un peu de ça, ça c'est sûr, parce que... Parce que
la scène où il s'inscrit sur Facebook,
Facebook
je crois que j'ai jamais vu une scène plus démodée que celle-là.
Ça c'est vrai.
On est en 2019 quand même.
C'est vrai, mais en revanche, la scène avec les copines, ça va à peu près, je trouve. Ouais. Donc elle, Mélanie...
De quoi, elle s'inscrit sur Tinder?
Ouais.
Ah oh, mais on a vu ça, mais je crois que tu vas sur
fois.
YouTube, tu tapes Tinder parodie.
Oui, c'est sûr.
Mais tu trouves des vidéos 20 fois plus drôles, mais...
Elle est juste. Elle est plutôt juste.
Mais moi, alors je sais pas si c'était ton cas, mais moi dans la salle, les gens étaient morts de rire.
Ah oui, moi aussi, ça arrive.
Morts de rire tout le temps. Non, mais même à un moment, quand elle va voir sa psy, elle ouvre. C'est Camille Cotin, les gens MDR.
Et je trouve qu'il y avait beaucoup de scènes marrantes.
Film t'a fait rire.
Ouais, moi aussi, ce film m'a fait rire. Personnage de Pierre Ninet.
Alors Pierre Ninet, à lui tout seul, je trouve, il sauve le film. Sa scène est merveilleuse.
Voilà, elle est très drôle.
Et lui, là, je vois ce grand acteur qui est, il arrive, il sauve le film.
Mais je trouve que avec le petit chat, c'est mignon aussi, il est drôle. Je
non,
trouve
mais
dans son intimité.
Le petit chat, c'est une astuce de scénario honteuse.
Mais non, mais je trouve
comme tu dis, je sais pas comment mettre de l'empathie sur mon personnage. Je sais, je vais lui filer un petit chaton et il va être gentil avec lui.
C'est honteux. Moi qui en ai rien à foutre des chats et qui voudrais tous les voir mourir, t'es plus touché par François Civil que je trouvais drôle et justement, je le trouvais très crédible dans le fait de ce gars. Tout seul dans sa vie, qui joue avec son chat pour la première fois, et je le trouvais chouette. Je trouve que les scènes avec le psy, justement, où il dit qu'il a perdu le chat et qu'il est sûrement mort, je la trouvais drôle. Non, je crois que c'était plutôt bien dialogué et drôle.
Passionnant et original, on est d'accord. On va finir par le thème et le message du film. Alors, pour moi, c'est clair, c'est une publicité géante pour la psychanalyse.
Oui, tout à fait. Ça,
alors là, il y a...
Mais du coup, moi, j'aime bien le message. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut aller voir des psys quand ça va pas.
Parce qu'en plus, j'avais vu une interview de Clapiche chez Ruquier, qui a dit que ce film fait « Oui, j'allais pas bien, je suis allé voir un psy, en 2 mois, j'allais bien. » Ok, est-ce que c'est une raison pour faire un film?
Écoute, moi je trouvais que c'était pas...
Moi les jeux vidéo, ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que je vais faire un film où mes personnages vont jouer aux jeux vidéo comme ça pendant 2 heures?
Oui, mais tu nous les recommandes à chaque fois, donc tu sais un peu ta façon de faire un film.
Ouais, mais je fais
pas
payer.
Parce que j'ai trop fainéant pour faire le film en entier.
Je ne fais pas payer pour ça.
Non, mais en fait, moi je l'ai trouvé donc touchant donc, dans cette chronique. Et oui, le message pour moi est extrêmement clair. Il faut que le moi soit soi pour que le moi devienne nous. Pour que deux mois deviennent nous. Donc c'est pour ça que ça s'appelle deux mois d'ailleurs. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est il faut se reconstruire et apprendre à se reconstruire soi-même avant. De pouvoir envisager une rencontre à un couple. Et d'ailleurs, c'est très bien porté par le film parce que donc, François Civil et Mélanie, Anna Girardot ne se rencontrent jamais.
Mélanie Brunier.
Voilà, le personnage, donc, ne se rencontrent jamais jusqu'au moment où ils vont mieux, à un point dans leur vie où ils ont un peu fait le point, ils sont sortis tout ce qu'ils avaient à sortir. Et c'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent se rencontrer. Et ce que je trouve positif par rapport au message, justement, c'est que c'est une action volontaire. Ils vont tous les deux faire quelque chose pour aller mieux. Plus couteau que juste de dire « Ah, on a le même chat, ah c'est toi qui l'as retrouvé ». Voilà, tous les deux, ils décident de se prendre en main et de faire des activités et d'aller mieux et de rencontrer d'autres gens. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se rencontrer.
Mais alors, question, rien dans le film, enfin moi ce que j'ai compris, nous dit qu'ils vont finir ensemble.
Non. Non, c'est juste qu'ils peuvent se rencontrer. Après, on verra. Mais ils vont mieux, ils sont dans un endroit où, ça y est, la rencontre est possible.
On va finir ton final dans ce film?
Moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un agréable moment. Les scènes étaient réussies, c'était bien joué. Certes, c'était chronique. Mais je trouve que le message est positif effectivement, donc j'ai été agréablement surprise alors que j'en attendais vraiment vraiment rien.
Écoute, moi j'ai jamais été un grand fan de Clapiche, hein. Sa trilogie L'auberge espagnole, bon, ça se regarde. Là il m'a vraiment déçu, enfin, je veux dire, le thème m'intéressait pas, les personnages m'intéressaient pas, l'intrigue m'a pas intéressé. Enfin, ce film, je vais pas dire qu'il est raté, mais je veux dire, j'y ai trouvé aucun intérêt. On termine avec Late Night, écrit par Mindy Kaling, et c'est Marie qui nous le pitch.
Catherine Newbery est une célèbre présentatrice de Late Show de la télé américaine. Mais malgré une longue carrière, de nombreuses récompenses et un petit public d'irréductibles, elle peine à renouveler son audimat et à rajeunir son image. Trop froide, trop intello, trop vieille et trop misogyne. Menacée de perdre son émission, Catherine décide d'embaucher une femme dans son équipe d'auteurs. L'arrivée de Molly, une ancienne chimiste de 40 ans qui découvre le métier de scénariste, confronte Catherine à ses propres faiblesses personnelles et professionnelles.
Alors Fiona, est-ce que comme moi, tu as vu Le Diable s'habille en Prada version télévision ?
Exactement. En moins bien.
En moins bien, oui, c'est ça.
Mais on est là pour parler des personnages en premier.
Oui, donc parlons de Catherine Newbery.
Alors je trouve que les personnages sont pas si mal fichus. Catherine Newbery, bon après, je pense que je tiens à dire que mon jugement est altéré par la performance de Emma Thompson, qui est mon actrice préférée et qui est formidable dans tout ce qu'elle fait.
Quoi qu'elle fasse.
Je pense que si le personnage de Catherine Newbery n'avait pas été incarné par Emma Thompson.
Tu avais vu Men in Black 3 ?
Oui, mais elle était bien.
Elle était très bien.
Et je pense que ce personnage, s'il n'avait pas été incarné par Emma Thompson, je l'aurais trouvé sûrement moins bien construit, bizarrement, parce qu'elle elle est forte.
Le magnifie, bon.
Donc elle est pas inintéressante, mais je trouve qu'elle est, elle est un peu fausse parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est très méchant et très dur. Alors certes, elle appelle ses associés par des numéros parce qu'elle a la flemme d'apprendre leur nom. Mais tout mon problème que j'ai avec elle, c'est qu'on nous dit qu'elle est donc qu'elle a un problème avec les femmes au début. Et je pensais que c'était vraiment ça le cœur du film. Elle dit, on lui dit, mais toutes les femmes que tu as embauchées, elles ont tu les as virées, tu ne supportes pas travailler avec des femmes.
Le problème, c'est qu'elles virent aussi des hommes. Donc en fait,
oui, voilà. Et donc, quand cette personnage de Molly arrive, donc elle n'a aucun problème, finalement, avec les femmes, en particulier. Donc, le sujet du sexisme, bon, là, pareil, on crossover sur l'autre catégorie, mais n'est pas très bien incarné parce que ce personnage, finalement, n'est pas si sexiste que ça.
Pour moi, elle est pas, c'est pas un personnage sexiste, en fait. C'est juste un personnage qui reproduit des stéréotypes de la masculinité, qui est devenue finalement... elle a intégré la masculinité et elle est devenue
Femme
puissante, donc un homme, et donc elle reproduit des hommes blancs à des postes haut placés, et voilà.
Et c'est vrai que quand la première scène où on la voit, où elle vire le mec qui lui parle de sa famille, on dirait qu'elle le vire comme pour un congé paternité, quoi. Enfin, c'est pas exactement elle n'est pas du tout touchée par la famille, etc.
Quand on l'accuse d'être misogyne, d'ailleurs, c'est prouvé, c'est tellement jamais incarné dans le film que pour moi, elle n'est pas misogyne. Enfin, elle est juste... Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était plutôt bien écrit. On a quelques pistes sur son passé, sur la personne que ça a pu être, sur l'histoire qui l'a amenée à devenir cette grande présentatrice, sur aussi son trait principal, c'est l'intransigeance. Elle le dit toujours, elle est intransigeante. Elle se rend compte, en fait, à l'arrivée de Molly, que... elle se pensait intransigeante aussi avec elle-même, et en fait, pas tant que ça, quoi. Elle a des défauts qu'elle ne veut pas voir. En revanche, j'ai plus de problèmes avec le personnage de Molly.
Ah, Molly.
Que j'ai trouvé, pour ne pas dire insipide, transparent, quoi. Vraiment, c'est une femme...
Précisons quand même que c'est la scénariste du film, et donc elle a écrit son propre personnage.
Ouais, c'est peut-être le fond du problème. Mais c'est vrai que c'est une femme qui a 40 ans, qui a une vie de chimiste dans une usine avant, qui a toujours rêvé d'être scénariste, mais tu sais pas pourquoi ni comment. Et elle décide, par un heureux hasard, elle est embauchée, mais le problème, c'est qu'elle est vraiment... l'embauche aussi est pas très bien fichue. Donc c'est vrai que t'as un petit peu du mal à croire à ce point de départ entre elles deux. Et surtout, cette Molly, en fait, tu ne la vois quasiment pas en dehors de son travail. Tu ne sais pas pour quelle raison elle veut devenir scénariste. Tu ne sais pas pour quelle raison c'est le job de sa vie, en fait. T'en sais rien. Parce que la seule scène où tu la vois dans son ancienne usine de chimie, elle a l'air de s'éclater. Donc, en fait, c'est bizarre, quoi. Enfin, donc,
c'est clair parce que justement, elle fait des blagues au micro et tout le monde la trouve drôle. Donc, elle se dit, je vais peut-être faire ça.
Elle fait des blagues de chimie, mais. Bon, effectivement, le problème qu'on a, je trouve, avec cette Molly, c'est que, elle n'est pas drôle, quoi. Enfin, elle est dans l'équipe d'auteurs et elle se démarque pas du tout. Mais personne d'ailleurs dans l'équipe n'est très très drôle au niveau.
Oui,
mais c'est
comme nous, je veux dire.
Oui, on est nous on est très drôle. Non,
mais encore une fois, oublie pas que c'est elle qui a écrit le scénario, donc elle a écrit les dialogues de tous les personnages.
Dans les réunions, quand il doit venir avec des idées, etc., il aurait fallu quand même qu'il y ait des petits éclairs de génie. Et en fait.
Mais elle en a des éclairs de génie, parce que comme elle arrive avec son regard neuf, elle réussit à poser les mots sans crainte sur les problèmes qui coince dans cette émission. Ouais. Guillaume, je te vois faire non défiler de la tête.
Non, mais là, Fiona a raison. Enfin, on se marre pas dans ce film. C'est une comédie. Une comédie, en plus, qui se passe dans une arène où les gens sont normalement tous drôles.
Et alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, sur l'humour, parce que pour moi, effectivement, bah, c'est peut-être un problème. C'est pas Molly qui est drôle, mais c'est Catherine.
Catherine
elle est drôle. Catherine, elle est super. C'est une meuf éclatante. Je trouve qu'elle a de la répartie. Effectivement, elle est incroyablement incarnée par Emma Thompson. C'est un personnage qui m'a fait beaucoup rire.
Mais moi, je la trouve drôle uniquement parce qu'elle est méchante et c'est sa méchanceté.
Mais
drôle.
C'est sympa.
Bah oui, bah oui, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas drôle dans ses textes. Elle est drôle parce qu'elle appelle un, elle dit comment tu t'appelles toi et je vais taper numéro 1, numéro 2.
Oui, mais ça, c'est
et qu'à la fin, même sa scène d'excuse où elle appelle tout le monde par ses vrais prénoms parce que ça y est, elle a progressé et il y en a un, elle a oublié, elle appelle vraiment pour un numéro.
C'est très drôle.
Non, mais la situation est drôle, mais le texte n'est pas drôle. Moi, je pensais que c'est pour une arène où ils sont censés écrire des textes drôles. Ce film est décevant.
Oui, et est-ce qu'on peut maintenant passer un peu à l'intrigue, même si on a un peu
Oui, je pense que.
Mais le problème aussi que j'ai sur cette. Donc, l'idée, c'est de sauver cette émission.
Oui.
Et je trouve que c'est un peu gênant parce qu'on dit à Catherine, en gros, sois toi-même et c'est pour ça que les gens vont t'aimer. Mais au début de l'émission, elle est elle-même. Elle est elle-même et elle invite des gens qui sont justement pas assez populaires, trop élitistes, et c'est pour ça que ça marche pas. Mais c'est des gens qui sont intéressants et qu'elle veut interviewer. Alors qu'après, ça ne marche pas parce que... Après, du coup, ils prennent des youtubeuses, des personnes comme ça. Ça ne marche pas non plus parce qu'elle les méprise. Et du coup, solution, bah, elle fait des micro-trottoirs et elle sort dans la rue, mais ce n'est pas du tout la même émission. Et ce n'est pas du tout non plus elle, ce n'est pas le même personnage. Donc, je comprends pas trop ce qu'on veut nous dire aussi avec cette évolution. Sois toi-même. Après, oui, elle fait plus de blagues sur des sujets qui lui importent. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est quand même pervertie.
Je suis d'accord, Marie.
Par rapport à la structure de ce film, c'est clair que c'est carrément classique. On a l'impression d'avoir vu déjà plein de fois ce genre de structure où tu as un personnage venu de nulle part, soit qu'il est stagiaire, soit qui vient vraiment d'un milieu très différent et qui finalement sauve l'entreprise. Pour n'en citer que quelques-uns, Le Diable s'habille en Prada, Le Nouveau Stagiaire, Les Stagiaires, Morning Glory qui parle aussi du milieu de la télé et qui était plutôt réussi sur cette ambiance de présentation matinale. Là où je trouve ça regrettable, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le film Long Shot, dont l'intrigue...
Que tu avais déjà recommandé.
Que j'avais déjà recommandé, mais en fait l'intrigue est assez similaire, parce que c'est une secrétaire d'État des USA qui veut se lancer dans la course à la présidentielle. Et en fait, elle veut rajeunir son image, et pour cela, elle embauche un auteur drôle, jeune, très différent de ce qu'elle a habituellement. Et en fait, c'est une comédie qui est sur le même genre de structure, et pourtant... extrêmement surprenante, plein de trouvailles, plein de surprises. On ne s'ennuie jamais et j'ai été assez éblouie par ce film. Et quand je vois à quel point on peut faire la même chose finalement, enfin, pratiquement le même point de départ et être aussi classique, bah, c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
Très bien, alors on va passer maintenant au message du film. Avant que je passe la parole, pour moi le message est extrêmement simple aussi. Laisser leur chance aux minorités. Parce qu'au début, ça commence un bureau, il n'y a que des hommes blancs, hétérosexuels, moustache, cuir. À la fin, le plan qui se finit, c'est la tour de Babel, hein, le bureau. Hein. Et, toutes les nationalités,
c'est
toutes les races.
Much, c'est vrai que ça manque de
subtilité.
Ça mange carrément de subtilité.
Ils y vont à fond. Hein. Le message,
c'est le message
dans ta
final, mais il n'est pas filé tout au long de l'intrigue. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que j'aurais aimé que Catherine Newbery, elle dit on m'attaque parce que on est sexiste, on est raciste, embauchez-moi une meuf, une noire, n'importe laquelle, on s'en fout, c'est juste pour l'image, et on prendra des photos avec elle et ce sera super. Et évidemment que ça aille plus loin, mais c'est pas du tout ce qui est joué.
Exactement, ouais, dans le thème, on a envie de dire oui, c'est ça. Ou à un moment, d'ailleurs, elle le dit, tout le monde lui reproche d'être une diversity hire. C'est-à-dire d'être embauché exactement que pour être un membre de la diversité. Et
ça aurait été bien que ce soit vraiment le cas.
C'est pas exactement le cas, parce qu'elle dit une femme, mais pas forcément une indienne. Et puis, c'est là où c'est pas très crédible, c'est que dans le casting, il dit, elle dit « Embauchez-moi une femme, tout de suite !» Et il se trouve qu'il est en train d'entretien avec elle. Et du coup, il dit « Bon, bah, je vous embauche parce qu'elle a fait une blagounette. » Non, en vrai, il sait très bien qu'il va se faire défoncer s'il prend elle. Il met une annonce sur Twitter, il y a 70 nanas qui débarquent.
C'est pas grave. C'est la théorie du premier mensonge.
On aurait pu s'en passer, puisqu'il suffisait de dire de toute manière, elle ne parlera pas, je m'en fiche, je n'en veux pas de cette nana. Prenez quelqu'un pour faire joli. qui n'ouvrira pas la bouche.
Mais donc, comme disait Marie, on ne sait pas pourquoi elle déteste les femmes en fait.
Oui, on ne sait pas. Donc,
aucune idée, aucune réponse.
Donc c'est pas traité, c'est pas tenu, et puis elle n'a rien dans sa. Enfin, finalement, je trouve qu'elle ne change pas tant la donne que ça, et que c'est Catherine Huberry toute seule qui change la donne en arrivant avant même elle. Dans la salle de réunion avec les auteurs, c'est pas Molly qui l'a fait venir avec voir les auteurs.
Qui donc, amorce le changement.
Donc elle avait déjà décidé de changer un petit peu avant. Alors elle en a un coup de pouce, mais bon.
C'est vrai qu'en termes, je vais revenir sur les personnages.
Ne marche pas.
En termes d'empathie de personnage, parce que son émission elle s'arrête, j'en avais rien à foutre.
Et d'ailleurs, ça a été très mal foutu au moment où elle dit, oui, non, finalement, elle s'arrête pas parce que je te redonne une chance là.
Oui. Ça, la meuf qui joue dans The Office. Oui. J'adore. Et non, mais surtout, c'est que pour vraiment qu'on ait de l'empathie pour elle, son remplaçant est un espèce de crétin qui sort que des blagues homophobes et sexistes. Pour qu'on dise, ah, il faut vraiment qu'on soit pour elle. Hein, oui, parce que sinon,
vous voulez pas de cette Amérique-là, vous voulez Hélène DeGeneres, mais c'est pas Hélène DeGeneres. D'ailleurs, ils essayent de faire la ressemblance, ils lui ont coupé les cheveux, ils la mettent un peu en costard. Mais bon.
Allez, tour final sur ce film, Marie.
Oui, non, je voudrais juste rajouter un message.
Ajouter un message.
C'est vrai que pour moi aussi, le thème de ce film, c'est qu'avant d'être intransigeant avec les autres, il faut être intransigeant avec soi-même.
Tour final sur ce film, Marie.
J'ai plutôt bien aimé ce film, j'ai passé un bon moment. Après, je suis d'accord qu'il ne restera pas gravé dans les mémoires, mais j'ai pas mal rigolé. Et, voilà. et quand même, Emma Thompson est éblouissante, ça, il faut dire.
T'as dit ça juste avant toi, Fiona.
C'est
vrai qu'Emma Thompson est éblouissante.
C'est vrai. Et on est typiquement dans la définition d'un film d'avion. À ne voir que dans un avion pour passer le temps. Et c'est très bien comme film d'avion. On va un peu rigoler, on peut un peu s'endormir. Ah, Emma Thompson, ah, on l'aime. Ah, où est le plateau repas ? Parfait.
Oui, c'est vrai que si tu rates une demi-heure de film, c'est pas trop grave. Mais écoutez, j'ai joué les mecs chiants, mais j'ai aimé aucun des trois films aujourd'hui. J'ai trouvé ça mauvais. On passe aux recommandations et aux deux recommandations de la semaine, les coups au fuyer. On commence par Cédric.
Alors moi, je recommande un livre qui s'appelle « Écrire un film, scénariste et cinéaste au travail ». C'est aux Impressions Nouvelles. Voilà, c'est un recueil d'entretiens avec des scénaristes qui, la plupart du temps, sont aussi réalisateurs d'ailleurs. C'est surtout axé sur le cinéma. Et voilà, c'est très intéressant.
Armand ?
Alors, je recommande un autre film avec Emma Thompson, où elle est, comme d'habitude, absolument parfaite, qui s'appelle Au nom du Père, avec Daniel Day-Lewis. Et voilà, c'est juste magnifique, il faut le voir.
Très bien. Marie ?
Moi, je voudrais recommander le film Pupille, qui est sorti l'année dernière, réalisé par Jeanne Herry, sur les deux premiers mois de vie d'un nourrisson qui est abandonné, enfin qui naît sous X. Et je pensais pleurer toutes les larmes de mon corps pendant ce film. Eh bien, pas du tout. J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, réalisé, joué. C'est très touchant, c'est drôle et émouvant à la fois. Et vraiment, c'est un très beau film français.
Très bien, Fiona.
Puisqu'on parle beaucoup de chroniques et à l'occasion de la sortie du nouveau film de Grand Corps Malade, La vie scolaire, que je n'ai pas encore vu, je vais vous recommander son premier film, Patient, qui traite de la vie dans les hôpitaux pour la rééducation et les adolescents paraplégiques et tétraplégiques. C'est une chronique, mais c'est très drôle, c'est très tendre et ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Voilà.
Bon, bah moi, évidemment, je vais recommander un jeu vidéo, la seule chose intéressante. FF10, qui est un jeu qui est sorti, donc Final Fantasy X, qui est sorti en 2002 et qui est ressorti sur Switch. Je me le suis refait cet été. Le scénario est quand même pas terrible, on va pas se mentir. Vous incarnez un petit jeune trou du cul, on va le dire, qui se croit tout permis, puis vous arrivez dans un monde 10 000 ans après, non, je crois que c'est 1 000 ans après votre ère, et puis vous tombez amoureux d'une fille qui est censée battre une espèce d'énorme bestiole qui va détruire le monde et qui se trouve être votre père, attention, plot twist, et vous tombez amoureux, et à la fin, puisque c'est en 2002, donc je vais le dire, vous êtes obligé de vous sacrifier pour sauver la vie de votre copine, mais dedans, il y a un mini-jeu qui s'appelle le Blitzball, et enfin, pour ceux qui connaissent, j'ai réussi à gagner le premier match de Blitzball qu'on fait à Luca. Voilà, j'ai mis 17 ans à le faire, mais j'ai réussi. On vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve dans 2 semaines, et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch, ou dans les commentaires YouTube, parce que nouveauté maintenant, nous sommes sur YouTube, on espère péter au moins les 50 vues, et on se retrouve bientôt.
Enfin, ça y est, gnignignign, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement. Alors reprenons, on dit 7, hop.